Allez,
Alors, on est à la page 86, si je ne m'abuse,
allons-y.
et on allait commencer à lire le Shrimad Bhagavatam, deuxième chapitre, troisième chapitre, verset 19, si j'ai bien compris. Alors, Ananda, est-ce que tu voudrais lire?
Oui, bien sûr. Alors. Comment l'homme d'aujourd'hui s'est-il mérité de ramasser de si pitoyables flambeaux? Le Srimad Bhagavatam 2.3.19 nous en dépeint la situation en ces mots. Svavidva varaostra karehi samstu taha purushaha pashu nayat karna patopeto dyatu nama gada grajaha. Sva, un chien. Vita vaha, Varaha, un cochon de village qui se nourrit d'excréments. Ushtra, le chameau. Karei, et par les ânes. Samstu Taha, loué admirablement. Purushaha, celui. Pashu, un animal. Na, jamais. Yad, de lui. Karna, oreille. Pata, la voix. Upeta, atteint. Jatu, à aucun moment. Nama, le saint nom. Gadra, Gada Gra Jaha, Shri Krishna qui nous délivre de tous les maux. Les hommes pareils aux chiens, aux porcs, aux chameaux et aux ânes chantent les louanges d'êtres qui jamais n'écoutent le récit des divertissements spirituels et absolus de Shri Krishna, celui qui nous libère de tous les maux. Teneur et portée. À moins qu'il ne bénéficie d'une éducation l'initiant aux valeurs spirituelles de l'existence, l'homme, d'une façon générale, ne vaut guère mieux que l'animal, ce verset le relègue plus précisément au rang des chiens, des porcs, des chameaux et des ânes. Pratiquement parlant, les universités aujourd'hui conduisent l'étudiant à développer la mentalité d'un chien et à devoir ainsi se mettre au service d'un maître. Leur prétendue éducation achevée, les hommes cultivés et dûment diplômés vont de porte en porte tels des chiens pour trouver un emploi, mais la plupart du temps, leur demande est rejetée faute de postes vacants. Tout comme le chien, animal de moindre importance, sert fidèlement son maître pour quelques bouchées de nourriture, l'homme lui aussi sert loyalement un maître et pour un bien maigre salaire. On compare à des porcs ceux qui ne possèdent aucun discernement en matière de nourriture et mangent toutes sortes d'immondices. Les porcs sont friands d'excréments. C'est donc dire que l'excrément peut servir de nourriture à une espèce animale déterminée. Certains animaux, oiseaux et autres, avalent même des pierres. Mais l'homme, lui, n'est pas fait pour manger n'importe quoi. Il doit se nourrir de céréales, de légumes, de fruits, de sucre et de produits laitiers. Les aliments carnés ne sont pas destinés à l'être humain. Sa dentition est ainsi faite qu'elle doit servir à mastiquer légumes et fruits. Et si l'homme possède deux canines, il s'agit là d'une concession à l'intention de ceux qui veulent à tout prix manger de la viande. Comme chacun sait, ce qui est nourriture pour les uns est poison pour les autres. L'homme est supposé prendre la nourriture qui a d'abord été offerte au Seigneur. Or, celui-ci accepte volontiers les offrandes d'aliments végétaux. Une feuille, une fleur, un fruit. Bhagavad Gita 9.26. Et comme l'enseignent les écritures védiques, on ne saurait offrir de nourriture carnée au Seigneur. L'homme est donc censé se nourrir de certains aliments déterminés. Il ne doit pas imiter les animaux à seule fin d'obtenir quelques prétendues vitamines. Aussi compare-t-on au porc celui qui mange n'importe quoi, sans nul discernement. Le chameau, lui, est un animal qui se plaît à manger des buissons épineux. Et l'on compare donc au chameau celui qui aspire aux douceurs de la vie de famille et d'une existence axée sur les soi-disant plaisirs de ce monde. La vie matérielle s'avère certes épineuse. Il incombe donc à tous de vivre selon la voie tracée par les règles védiques pour ainsi faire le meilleur usage d'une mauvaise affaire. La vie dans l'univers matériel se paie au prix de son propre sang. La vie sexuelle, qui représente le facteur primordial de la jouissance matérielle, revient donc à se nourrir de son propre sang, et il n'est besoin ici d'aucun détail pour rendre la chose plus claire. Le chameau avale lui aussi son propre sang, alors qu'il mâche des branches épineuses qui lui tailladent la langue. Les épines, ainsi mélangées au sang frais, ont une saveur qu'apprécie ce stupide animal qui se délecte ainsi d'un bonheur illusoire. Pareillement, les gros bonnets de l'industrie qui travaillent avec acharnement afin d'amasser de l'argent pour des moyens douteux goûtent les fruits épineux de leur acte mêlés à leur propre sang. Le Bhagavatam range donc ces malades mentaux parmi les camélidés. L'âne, pour sa part, est reconnu, même chez les bêtes, comme le plus sot d'entre tous. Il se tue à porter les fardeaux les plus lourds sans rien y gagner. En Inde, l'âne est en général employé par le blanchisseur, dont la position sociale n'est guère élevée. L'âne est également caractérisé par le fait qu'il est sans cesse victime des ruades de sexe opposé. En effet, quand il vient mendier auprès de l'ânesse de s'accoupler avec elle, celle-ci le reçoit avec force ruade, ce qui ne l'empêche pas pour autant de le suivre docilement, attaché qu'il est par ce désir sexuel. N'est-ce pas là l'image même de l'époux que sa femme mène par le bout du nez? La masse des hommes travaille ainsi avec acharnement, et plus particulièrement dans l'âge de Kali. Ils peinent à des tâches destinées aux ânes, portant de lourds fardeaux, ou comme en Inde, tirant telas, et pousse, pardon. Voilà donc où mène le progrès de notre civilisation. Il a réduit l'homme à peiner comme un âne. Celui qui travaille dans les ateliers et les grandes usines doit lui aussi vivre comme une bête de somme. Et après sa journée de dur labeur, le pauvre ouvrier rentre chez lui pour se faire fustiger par sa femme qui non seulement rejette ses avances en vue de rapports sexuels, mais le harcèle en plus pour d'innombrables problèmes domestiques. Comme nous l'avons vu, le Srimad Bhagavatam n'exagère en rien lorsqu'il range la masse des hommes dénués de toute réalisation spirituelle parmi les chiens, les porcs, les chameaux et les ânes. Les dirigeants de telles masses ignorantes sont peut-être très fiers de se voir honorés par un si grand nombre de chiens et de porcs, mais cela n'a en fait rien de très flatteur. Le Bhagavatam déclare ouvertement que celui qui n'éprouve aucun intérêt pour être éclairé par la science de Krishna serait-il l'un de ses dirigeants, placé à la tête de pareils chiens et porcs, se range lui aussi parmi les animaux et rien de mieux. Peut-être verra-t-on en lui un animal puissant et fort, ou une très grosse bête, mais il n'en reste pas moins qu'à cause de son athéisme, le Srimad Bhagavatam ne l'élèvera jamais au rang des hommes. En d'autres mots, ces dirigeants athées, placés à la tête des hommes, pareils à des chiens et des porcs, ne sont que des animaux plus gros, avec des caractéristiques bestiales davantage accentuées. Un homme vraiment intelligent, inspiré et guidé par les enseignements d'un maître spirituel réalisé, des écritures révélées et des autres personnes saintes, modèlera sa vie en fonction du but ultime, retourner à Dieu. Tout, incluant toute activité philanthropique. Tout doit être mis à contribution dans la mesure du possible, telle une question de vie ou de mort. Ça peut sembler exagéré, mais dans le dernier paragraphe de la présente teneur reportée du mantra 14 de la Sri Ishopanishad, Srila Prabhupada écrit « Il est donc de notre devoir de sauver notre prochain ainsi que nous-mêmes, mais il faut savoir comment le faire correctement. Il n'est pas question d'aimer ou de ne pas aimer, la vérité, elle est là, immuable. » Si nous voulons échapper au cycle des morts et des renaissances, il faut s'engager avec dévotion au service du Seigneur. Il ne s'agit pas de faire de compromis, car c'est une question de nécessité absolue. Un homme emporté par la vie matérielle néglige ou ignorant tout principe de réalisation spirituelle, n'a aucun intérêt pour l'existence même d'un but ultime de la vie. Toute notion en est éraillé de son esprit. Son esprit est ailleurs, dans des choses externes par rapport à lui-même. Manoratenasati davato bahihi. Srimad Bhagavatam 5.18.12. Ainsi essaie-t-il de se délecter de l'existence matérielle. De toute évidence, il est fourvoyé par l'énergie illusoire du Seigneur. Prarada Maharaj affirme dans le Srimad Bhagavatam 7.5.31 Na te vidu svarta gatim i vishnum dura.
On peut arrêter là. Merci.
Hare Krishna.
Parce que là, il y en a un autre gros verset là.
Parfait.
Voilà, merci beaucoup. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Omagyana Timirandasya Gananjana Sadakaya Chaksurun Menitam Yena Tesmai Shri Gurave Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions?
Je trouve que ça tombe très bien qu'on discute de ça avec les récentes élections.
Effectivement, un gros animal qui a été élu.
Voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est très approprié.
Il y a un monsieur qui est venu chez nous faire un service dont on avait besoin. Et, disons, et il me disait, c'était juste un ou deux jours, quelques jours après l'élection. Puis il me disait, ah, il y a un clown qui vient d'être élu. Il dit, on sait pas comment ça va tourner. Alors, les commentaires abondent. Et le monsieur en question, c'est sûr qu'il a une grande opinion de lui-même, une grande opinion de qu'est-ce qu'il veut faire, et etc., etc. Alors, à quoi... Alors, ça, on va laisser faire la politique, là. Mais le Srimad Bhagavatam, dont nous avons lu un verset aujourd'hui, deuxième chant, troisième chapitre, verset 19, c'est un verset que Prabhupada cite quelques fois, pas aussi de façon aussi nombreuse que certains autres versets, mais ça revient. Alors, c'est important de lire et relire la teneur et portée de ce verset du Srimad Bhagavatam. Et en quoi cela peut-il nous aider? Ben, dans la mesure où soit on se reconnaît dans ce qui est décrit dans la teneur et portée, soit on veut éviter d'être au niveau qui est décrit dans la teneur et portée, ou soit on peut vouloir aussi transcender les circonstances de la vie et voir justement que ça peut se traduire dans le quotidien, ce qui a été décrit dans cette teneur et portée. Alors, comme par exemple, moi, ce que je retiens le plus, c'est la comparaison avec l'âne. Il y a combien d'hommes qui travaillent comme des ânes et qui se font traiter comme des ânes par leur douce moitié? Ça, c'est dans la vie de tous les jours, on peut le voir que ça arrive souvent, 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 souvent. Et donc, c'est très pratique. Et parfois même, ça peut nous aider justement à faire le point sur son propre comportement et arriver aussi à transcender des circonstances qui sont semblables à celles qui sont décrites dans la teneur reportée. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
J'avais, je sais pas si c'est un commentaire ou une question, c'est que les personnes qui vivent comme des âmes, c'est parce que leur corps prend le dessus au-dessus de leur âme. Ils sont complètement corporels. Ils font que des besoins physiques. Alors c'est pour ça que je crois que c'est pour ça que la majorité veut dire de la population, on est toutes des âmes.
Okay. Oui, disons, effectivement, disons comme c'est dit, métro, boulot, dodo, ça s'applique à beaucoup de monde. Et en général, les êtres humains ne sont pas enclins à la vie spirituelle. Ça prend quelqu'un qui est vraiment absorbés dans la vie spirituelle pour motiver d'autres personnes qui sont spirituellement endormies, si ce n'est pas pour dire qu'ils sont spirituellement mortes. Ça prend un maître spirituel, ça prend une âme forte, une âme réalisée pour aider à attiser la vie spirituelle d'un être humain. Alors, un être humain laissé à lui-même, ça ne va pas vers la vie spirituelle. À moins qu'il soit vraiment quelqu'un qui a pratiqué la vie spirituelle dans une vie antérieure. Mais s'il est laissé à lui-même, ça va être les tendances animales qui vont finir par l'accaparer et puis le dominer. Manger, dormir, s'accoupler, se défendre. Alors, les animaux ont ces activités. L'être humain aussi a ces activités-là en commun avec les animaux. Mais Prabhupada explique qu'il y a une cinquième dimension à la vie humaine qu'on appelle la réalisation spirituelle ou la religion. La religion, c'est la cinquième dimension pour la vie humaine. Qu'on peut inculquer à un être humain des principes religieux qui vont l'aider à s'orienter vers le but ultime de la forme humaine de vie, qui est de retourner à Dieu, retourner à Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, si un être humain est conscient du but à atteindre, ça va modifier sa vie complètement. Et s'il n'est pas si conscient du but à atteindre, ben c'est sûr qu'il va avoir un certain manque à ce niveau-là. C'est comme dire, par exemple, j'ai un billet d'avion ouvert. Mettons, j'ai un crédit de 1000 $. Mettons 2000 $ comme billet d'avion. Il me laisse juste la destination à choisir. Mais on ne sait pas quelle destination. On n'a aucune idée de destination à choisir. Alors, même si on a 2000 $ en cadeau, crédit, pour prendre n'importe quel billet d'avion qu'on voudrait, on va pas le prendre. Parce qu'on n'a même pas idée de quelle destination il y a devant nous. Alors, la vie humaine, c'est la même chose. Il y a un but selon lequel la nature matérielle a fixé pour la vie humaine. Et la majorité des êtres humains n'ont aucune conscience de ce but qui est entendu ou sous-entendu selon les lois de la nature. La nature matérielle perçoit ou voit ou offre la forme humaine de vie dans un but que ça, c'est l'occasion pour se libérer de la naissance et la mort. Retourner à Dieu, retourner à Krishna. Ça, c'est le but. Et si un être humain n'en profite pas, ben, pour la nature matérielle, ça veut dire, ben, t'as pas profité de l'opportunité. À ce moment-là, tu vas être traité en conséquence. C'est très malheureux. Alors, pour un être humain, c'est très important de devenir conscient de la responsabilité qu'il a par rapport à Dieu. Par rapport à lui-même, qui est de retourner à Dieu, retourner à Krishna. Être conscient de Krishna. C'est la façon, disons, de se faire plaisir à soi-même, c'est de devenir conscient de Krishna. En prenant les instructions de Krishna très, très au sérieux. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Non, je pense que tu as bien résumé la situation.
Ouais, effectivement, c'est comme ça.
Alors, c'est impératif en fait. C'est impératif pour un être humain de retrouver le chemin.
Ouais.
qui mène à Krishna, parce que sinon ça sert à rien, comme tu disais, hein. La vie n'est pas plus intéressante que la vie d'un chien ou d'un chat, hein.
De l'importance de ne pas se laisser influencer par ce qui se passe autour de nous. C'est ce qu'on voit autour de nous, quand on n'est pas trop orienté vers la spiritualité, ben ce qu'on voit, on prend ça comme normal, comme juste. C'est là qu'il faut pas se laisser faire. Faut vraiment avoir une démarche intérieure qui fait qu'il faut travailler dessus pour pas se laisser influencer par ce qui se passe autour. T'sais.
D'accord. Mais on va ajouter quelque chose à ça. Parce que la démarche intérieure, c'est bien. Mais je vous dis ça par expérience, OK? La démarche intérieure, ça peut nous protéger jusqu'à un certain point. Dans le sens, si notre démarche intérieure est, si on peut dire, très absorbante ou très absorbée, c'est très bien. Par contre, la démarche intérieure peut être limitée parce qu'on est limité en soi-même. Par contre, ce qui n'est pas limité, c'est la propagation de la conscience de Krishna. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Parce que la propagation de la conscience de Krishna, ça, c'est un aspect infini. Alors, ça nous dépasse. Alors, au lieu de penser à s'absorber intérieurement ou personnellement, par contre, si on s'engage dans des activités missionnaires de répandre la conscience de Krishna, avec lesquels on est capable aussi de composer avec. À ce moment-là, on est absorbé de façon solide dans la conscience de Krishna. Est-ce que c'est assez clair?
Oui, dans le fond, c'est oui. Il faut juste être actif, puis il faut agir. D'une façon, au service de Krishna, il faut agir, faut être dans l'action aussi.
Exactement. Alors ça peut être selon les individus, selon leurs capacités, mais dans la mesure où il y a une adhésion, selon le pourcentage d'adhésion de la personne dans un service pour propager la conscience de Krishna, automatiquement, tu propages la conscience de Krishna à toi-même et en plus, tu fais quelque chose qui va bénéficier à d'autres personnes que toi-même. Alors, je donne un exemple. Pourquoi je parle comme ça? Simplement parce que, comme je mentionnais au début et depuis déjà un certain temps, on fait un service d'index de la Bhagavad Gita. Et en début de semaine, on a remis une première épreuve d'index qu'on avait fait jusqu'à date. Et puis le traducteur a accepté, oui, mais le traducteur nous laisse savoir. Il m'a écrit un mot, là, au moins une page et demie, pour me dire, tu me vois déconcerté, parle, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça, patati patata. Puis là, il dit que tout le travail qu'on a fait, il doit y avoir une façon de le récupérer pour la plupart. Puis là, il faut faire ci, puis il faut faire ça. Puis là, il me dit, ben, en d'autres mots, faut reprendre chaque entrée, chaque énoncé de l'index selon certains critères. C'est là qu'il m'a expliqué, etc., etc. Et sur lesquels j'ai commencé à travailler. Et que je me, moi, dans ma tête, je me disais, ben, c'est à lui de faire ça. Je pensais que c'est lui qui va faire ça, mais non. Il nous renvoie ça, c'est à nous autres de le faire. Alors là, je suis pas plus découragé pour longtemps, là. C'est le service de Prabhupada. Alors, j'en suis même heureux. Ça va nous donner beaucoup, beaucoup de travail à faire, puis on va apprendre beaucoup de choses. Et puis, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. C'est dans le sens que, au lieu que ce soit quelqu'un qui va prendre certaines décisions, énoncé par énoncé, la responsabilité nous est attribuée. Et c'est nous qu'il faut que décidions. Alors, OK, on va le faire. Mais dans ce sens, ça, c'est un service qui est très absorbant. C'est le moins que je puisse dire. Il n'a pas besoin de se casser la tête. Est-ce que je vais être plus conscient de Krishna? Est-ce que ça va être, disons, est-ce que je serai absorbé intérieurement, etc.? Tout ça, oublie ça. It's out of the window. Dans le sens que tu fais le service, tu vas être assez absorbé pour ce que ça demande comme absorption, puis ça va être bien correct comme ça. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai dit ça, Benoît. Alors, c'est comme, par exemple, quelqu'un... Donnons un autre exemple, OK? Quelqu'un veut être un yogi, et comme Krishna dit, là, je vais me moquer un petit peu, là, je vise personne, j'ai rien à insinuer. Mettons, comme c'est dit dans la Bhagavad Gita, la Gita dit, celui qui mange trop, ou trop peu, celui qui dort trop ou trop peu, ne peut être un yogi. Alors, supposons qu'il y a un tel, et lui, il pense, ben moi, j'aime ça jeûner. Je jeûne régulièrement à tous les X, Y, Z critères. Je jeûne. Parfait. On va mettre ça sous la bannière. C'est ta démarche intérieure. Alors, jeûne, mon cher. Correct. Mais comme c'est dit aussi dans la Bhagavad Gita, dans une teneur portée de Prabhupada, il faut pas jeûner par caprice. Il faut jeûner selon les critères des Écritures. Alors, il y a des critères de jeûne. Le jour de Janmashtami, on jeûne jusqu'à minuit le soir. Le jour d'Ekadasi, on s'abstient de manger des grains, des céréales. Alors, on retourne voir un tel, Y, Z, puis on dit, bon, ben c'est Janmashtami aujourd'hui, est-ce que tu es en forme pour jeûner jusqu'à minuit ce soir? Ah! Une autre paire de manches. Est-ce que tu observes Ekadasi? Une autre, ça c'est facile, c'est pas probablement difficile. Ça peut-être qu'il va l'avoir numéro un. Hey, c'est même pas un vrai jeûne celui-là, c'est quelque chose comme un corps de jeûne ou quelque chose. Il va dire ok, ça c'est correct. Et on va donner une autre situation, par exemple que il faut aller dans un pays où il y a la guerre et il faut prêcher la conscience de Krishna. Comme par exemple, il y a un couple de dévots, mari et femme, qui étaient ici à Montréal et que peut-être Madhavananda a connu, Tania et son mari, Philippe, te souviens-tu? Philippe était Libanais. Alors, à un moment donné, ils ont décidé de quitter et d'aller au Liban, à Beyrouth. Et avec les nouvelles qu'on connaît depuis un certain temps, ben Beyrouth s'est rendu en ruine, peut-être pas partout, mais en tout cas, ils ont reçu une pluie de difficultés. Alors là, si tu dis un dévot comme ça, Mettons qu'il dit, ah, moi, j'aime ça jeûner. Ben, écoute, là, que t'aimes ça, que t'aimes pas ça, tu vas être obligé de jeûner pareil parce qu'il manque de nourriture. Essaye d'être conscient de Krishna malgré les circonstances difficiles. C'est un défi en soi. Et ça, c'est suffisant. Alors, il y a toujours une partie d'austérité qui peuvent parfois nous sembler, on peut dire, qui nous dépasse et qui nous oblige à, malgré tout, à être conscients de Krishna. Alors, un autre exemple, dans le Srimad Bhagavatam, qui d'autre était célèbre pour avoir jeûné jusqu'au moment de sa mort?
Parikshit.
Parikshit.
C'est ça. Parikshit Maharaj était condamné à mourir au bout de 7 jours. Et lui, il a décidé de ni boire ni manger pendant 7 jours. Jusqu'à la fin. Mais par contre, de quoi se nourrissait-il? Il se nourrissait du Srimad
Bhagavatam.
Il écoutait le Bhagavatam. Et Sukadev Goswami explique aussi qu'en écoutant le Srimad Bhagavatam, les notions de manger, dormir, etc., peuvent être anéanties, peuvent être diminuées, diminuées, diminuées. Ça peut compenser. Alors, on oublie ça. Alors, c'est ça. Et une fois, j'étais personnellement avec Srila Prabhupada et une conversation avec Prabhupada. Et Prabhupada m'avait dit que plus on est avancé spirituellement, plus les activités de manger, dormir, se reproduire, se défendre viennent jusqu'au point de zéro. Alors, la conscience de Krishna est à un niveau supérieur à ses activités qui appartiennent au niveau du corps, parce qu'il y a un engagement supérieur, la conscience de Krishna. Alors, si on est absorbé à prêcher ou à faire un service qui est lié à la prédication de la conscience de Krishna, ça nous donne une expérience pratique. Comment la conscience de Krishna est située à un autre niveau complètement? Alors, comme Benoît disait, dans l'entourage autour, ça nous donne une certaine idée de c'est quoi la réalité. Mais il y a une autre réalité qui est la réalité de la propagation de la conscience de Krishna, le service de Krishna, que les dévots peuvent expérimenter et qui transcende la réalité au niveau matériel. Alors, comme par exemple pour Monsieur Ordinaire, sa journée commence avec le journal livré à sa porte, puis le café, et puis la radio, la télé, etc. Puis ensuite, il s'en va au boulot. Mais pour un dévot de Krishna, il n'y a pas de TV, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de café, il n'y a pas de journal. C'est le service de Krishna. Sous la forme, justement, c'est comme dans un temple. Il y a une classe de Srimad Bhagavatam le matin, il y a Guru Puja, Mangal Arati. C'est une autre réalité qui est la réalité du service de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Je veux dire quelque chose sur le 2 000 $ de billet d'avion. Ça prend une agence de voyage qui peut être dirigée. C'est la même chose dans la conscience de Krishna. Ça prend quelqu'un pour diriger où aller.
C'est un très bon point. Alors, c'est ça aussi, l'association des dévots et un maître spirituel nous aide justement à nous diriger dans la bonne direction. Très bon point. Merci beaucoup. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on va continuer la lecture. On va faire un petit point encore. C'est la page 88. C'est une citation du Bhagavatam. Mano ratena sati davato bahi. Mano veut dire mana. Mana veut dire le mental. Et rata. Rata, c'est quoi, savez-vous? Rata yatra, ça veut dire quoi? Le festival des...
Du chariot.
Chariot. Rata veut dire le chariot. Alors, mano, rata, ou mana, rata. Mana, c'est le mental. Rata, c'est le chariot. Mano, rate, nasati. De asati, là, je sais pas trop, là, mais mano, rata, ça, je sais. Et davato, bahi. Bahi veut dire à l'extérieur. Et davato veut dire se promener ou errer. C'est-à-dire que le mental erre au niveau, disons, la personne est en train d'être égarée par son mental, à errer dans les choses externes. C'est mano ratena sati davato bahi. Alors, quand vous avez le journal ou n'importe quoi de littérature mondaine, on vous invite à prendre votre mental et à le laisser se divertir, en d'autres mots, à être égaré par différents sujets qui sont proposés. Et là, vous êtes au niveau mental. Et au niveau mental, il n'y a pas vraiment d'intelligence qui discerne. Alors, ce qui est vrai pour les uns devient comme la vérité pour un paquet d'autres qui suivent par la suite. Alors, au niveau matériel, par exemple, le sexe, c'est, comme on a lu, c'est le plaisir le plus élevé au niveau matériel. Alors, au niveau matériel, dans la vie, dans la société, le sexe est un facteur qui joue pour beaucoup dans l'estimation du bonheur des individus. Alors, les gens sont entraînés et c'est pris pour acquis que le bonheur, si tu es capable de satisfaire tes impulsions sexuelles, t'es, comme on dit en québécois, t'es aux oiseaux. C'est le bonheur. Et il y en a partout. Les publicités, les suggestions, l'humour tournent autour de ça. Et les gens pensent, oh, ça c'est super. Mais il n'y a pas d'intelligence. L'intelligence, ça commence comment en fait? Ça commence, bon, l'intelligence commence de multiples façons, là. Mais disons, un des principes d'intelligence, c'est de mettre le sexe à sa place. Alors, c'est pourquoi, dans le yoga, le principe de continence, c'est un des principes, des premiers principes pour la vie spirituelle. De pas se laisser aller pour assouvir ce penchant-là, mais de tenir ça disons, sous contrôle, dans le sens de s'abstenir de quelque chose qui n'est pas nécessaire, simplement. Alors, c'est pourquoi ça commence avec le principe de brahmacharya, de la vie célibataire. Et les jeunes étudiants, les jeunes garçons, dès l'âge de 5 ans, sont formés à rester à leur place et de s'abstenir de relations avec le sexe opposé autant que possible. S'ils veulent, mettons, un jour à l'âge adulte, se marier, et même à ça, les principes demeurent aussi à la base. Ce qui fait que la vie sexuelle dans un ashram, soit brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas, c'est tenu à distance, à une certaine, avec une réserve. C'est seulement dans le ashram de Grihastha qu'il y a une certaine licence parce que c'est comme ça que ça marche pour avoir des enfants. Mais à part de ça, c'est à éviter autant que possible. Alors, ça donne une autre perspective sur la vie et ça fait sauver beaucoup de temps à une personne et ça l'oblige à se concentrer sur une alternative qui est supérieure. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, la vie humaine, si on peut dire, est pas faite pour vivre comme les chiens, les porcs, les chameaux et les ânes. Alors, ça prend un pur dévot de Krishna, comme Srila Prabhupada, pour écrire une teneur et portée comme nous avons lu, et qui nous décrit justement, parce que avec juste le raisonnement ordinaire, quelqu'un peut penser, mais hey, c'est pas correct ça, traiter le monde de chiens, de porcs, de chameaux, des ânes. C'est quoi l'explication? Quelqu'un peut dire, ah ben il est pas poli, il a du front tout le tour de la tête. Mais quand on lit la teneur portée, ah, c'est une autre paire de manches, que tout d'un coup le chapeau commence à scier, comment on peut dire? Scier, S-I-E-D, le chapeau scié, le chapeau fait sur la tête. Alors, c'est pour ça, faut mieux avoir une éducation basée sur les Écritures, ça a son point, son pesant d'or, simplement. OK, alors on va continuer, à moins qu'il y ait d'autres questions, commentaires. Alors là, on va parler du but ultime de la vie. Tantôt, on a parlé que ça fait une différence d'avoir le but ultime de la vie. Et là, on va parler, c'est Prahlad Maharaj qui en parle du but ultime de la vie. Lequel but ultime aussi est, pour la plupart des gens, ignoré parce que les gens n'ont pas d'éducation spirituelle. Alors, on va demander à Lynn si elle veut lire.
Oui.
La page 89 en haut.
De toute évidence.
Ouais, tu peux commencer par là, oui. C'est correct.
De toute évidence, elle est fourvoyée par l'énergie du soir du Seigneur. Prahlad Maharaj affirme dans la Srimad Bhagavatam 7.5.31. Nate vidu svarta gatim ivishnum durasaya yebair arta manina anda katander upanya manas tepisha tantriam uru damni badaha. N'en pas, te il vidu connaissent svarta gatim, le but ultime de l'existence ou leur véritable intérêt personnel, qui en vérité, Vishnu et son royaume, Durasaya, ayant l'ambition de jouir de cet univers matériel, Yeki, Bahi, les objets externes des sens, Artha, Manina, considérant comme ayant de la valeur, Anda, des aveugles, Yata, comme Ande, par d'autres aveugles, Upaniya, Mana, conduit, Te, il, Api, bien que, Isha, Tantriyam, aux cordes, loi, de la nature matérielle, Uru, faite de très robustes, Damni, filet, Bada, lié. Les êtres, hantés par le désir de jouir de l'existence matérielle et ayant dès lors accepté pour maître ou pour gourou un autre aveugle également attaché aux objets des sens, ne peuvent comprendre que le but de la vie consiste à retourner dans leur demeure originelle pour y servir Dieu, Vishnu. De même que des aveugles guidés par un autre aveugle s'écartent du chemin et tombent dans un ravin, les hommes attachés à la vie matérielle, qui se laissent guider par d'autres hommes, eux aussi d'esprit matérialiste, se voient liés par les cordes très robustes de l'action intéressée et poursuivent sans fin leur existence matérielle assujettie aux trois formes de souffrance, teneur et portée. Comme il doit toujours y avoir des divergences d'opinion entre les Asuras et les Bhaktas, Hiranyakashipu, se voyant critiqué par son fils, n'aurait pas dû être surpris de ce que Prahlad Maharaj n'approuvait pas son mode de vie. Cependant, Hiranyakashipu entra dans une extrême colère et voulut s'en prendre à son fils pour avoir déconsidéré son précepteur ou maître spirituel issu d'une famille de Brahmanas, celle de l'illustre Acharya Shukracharya. Le mot Shukra signifie semence et Acharya précepteur ou gourou. Les gourous ou maîtres spirituels par hérédité ont partout existé depuis des temps immémoriaux, mais Prahlad Maharaj se refusait à accepter un gourou de ce genre ou à recevoir des instructions de lui. Le véritable gourou est Shrotriya, c'est-à-dire qu'il doit avoir entendu ou reçu le parfait savoir par l'intermédiaire d'une filiation spirituelle parampara. C'est pourquoi Prahlad Maharaj n'accordait aucune valeur à un maître spirituel héréditaire. Cette sorte de gourou n'éprouve aucun intérêt pour Vishnu. Au contraire, ils aspirent à la réussite matérielle. Bahir Artha Manina. Le mot Bahir signifie externe, Artha intérêt et Manina prenant très au sérieux. D'une manière générale, on peut dire que la quasi-totalité des hommes ignore l'existence du monde spirituel. La connaissance des matérialistes est restreinte aux limites des quelques 6 milliards de kilomètres que mesure le diamètre de ce monde matériel, situé dans la partie obscure de la création. Ils ignorent qu'au-delà de cet univers se trouve le monde spirituel. À moins d'être un dévot du Seigneur, personne ne peut comprendre l'existence du monde spirituel. Les gourous ou précepteurs uniquement intéressés par l'univers matériel sont ici qualifiés d'aveugles, anda. Ces aveugles peuvent bien sûr guider d'autres aveugles dépourvus de toute connaissance véritable concernant la nature de l'existence en ce monde, mais ils ne sont pas reconnus par des bhaktas comme Prahlad Maharaj. Ces maîtres aveugles, préoccupés par le monde externe matériel, restent à jamais prisonniers des puissants liens de la nature matérielle. L'opération changement de cap ou de mentalité est dépeint au verset du Srimad Bhagavatam 7.5.32.
Okay. Merci, 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 merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Bien, moi, le seul commentaire, c'est que quand même, il souligne peut-être deux, trois fois que finalement, tout le monde est pas mal prisonnier des puissants liens. C'est difficile de s'en défaire, donc, si ce sont des liens puissants du monde matériel.
Effectivement. Dans la Bhagavad Gita, au chapitre 7, verset 14, Krishna dit que nul ne peut surmonter les liens puissants de l'énergie matérielle. Krishna dit Devi Yesha Gunamai, Mama Maya Duratyaya, Mamevaye Prapadyante, Mayang Etang Tarantite. Personne ne peut surmonter l'influence de l'énergie matérielle à moins d'une condition, s'abandonner à Krishna. C'est la seule condition. Si on s'abandonne à Krishna, on peut échapper à l'influence de l'énergie matérielle. Autrement, c'est impossible. Alors, comme tu dis, là, les cordes, on dit c'est... On a dû ça d'entendre le porté.
Ils disent les puissants liens de la nature matérielle.
C'est ça.
Ils restent à jamais prisonniers. Surtout à jamais, en plus.
Ouais. Alors, c'est Prahlad Maharaj qui dit ça. C'est une des autorités. C'est un Mahajan. Une des grandes autorités de la conscience de Krishna. Alors, c'est quand t'es pris au piège, t'es pris au piège pour de bon. Alors, c'est pourquoi l'âme conditionnée est appelée aussi Nitya Bada. Bada veut dire lié. Et Nitya veut dire toujours. Elle est toujours liée par la nature matérielle. Personne ne peut, disons, se libérer tout seul non plus, ou par ses propres forces, ou par ses propres moyens. C'est pourquoi un nom de Krishna est Mukunda. Mukunda veut dire celui qui accorde la libération. Alors, il faut s'abandonner à Krishna et aussi s'abandonner aux dévots qui représentent Krishna, c'est-à-dire un maître spirituel authentique. Un et l'autre vont ensemble, ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Alors, il faut être, disons, excessivement chanceux ou fortuné si on a une chance, justement, d'échapper à l'influence de l'énergie matérielle. Et ça, ça va être possible par la bénédiction d'un pur dévot de Krishna. Disons, est-ce que vous connaissez du monde qui ont la bénédiction d'un pur dévot de Krishna dans leur vie?
Srila Prabhupada?
Ça, c'est le pur dévot. Et Prabhupada pourrait dire, ben, c'est son maître spirituel. Ainsi de suite. Mais en général, si vous demandez à Monsieur Tout-le-Monde est-ce que vous êtes sous la bénédiction ou avez-vous l'opportunité d'être béni par un pur dévot, la majorité, c'est non. La majorité vont dire, ben c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est quoi ça? Ils vont dire, ah, ça c'est, comme on dit en québécois, une patente de religion. Pour ne pas dire d'autres termes vulgaires, les gens n'ont pas une notion comme ça. C'est des dévots qui pensent comme ça. Alors, le prochain verset qu'on va lire, ça explique justement le privilège d'avoir la poussière des pieds pareils et le lotus d'un pur dévot. Alors, Virginie, voudrais-tu lire?
Hare Krishna. L'opération changement de cap de mentalité est dépeinte au verset du Srimad Bhagavatam 7.5.32. Je lis le verset en sanskrit.
Ouais, s'il vous plaît.
Neistyam matistavad urukramang. Jirim Preisati Anatapagamu Yad Artah Mai Yazam Padarajo Bishekam Nishkinchanam Nam Na Vrishnita Yavat Na ne pas Eshiam de C Mati la conscience Tavat aussi longtemps, Urukrama,
Angrim,
les pieds pareils au lotus de Dieu, la personne suprême, célèbre pour ses exploits hors du commun, Sprishati, touche, Anahata, de choses indésirables, Apagama, la disparition, Yat, de quoi, Arta, le but, Ma-i, Yasham, de grandes âmes, les Mahatma ou Bhakta. Pada Raja, par la poussière des pieds pareils au lotus. Abhishikam, consécration. Nishki Chana Nam, de Bhakta, qui n'ont aucun lien avec l'univers matériel. Na, ne pas. Vrinita, peuvent accepter. Yavat, tant que. À moins de répandre sur leur corps la poussière des pieds pareils au lotus d'un Vaishnava, pur dévot de Krishna, totalement délivré de la souillure matérielle, les hommes fortement attirés par le matérialisme ne peuvent s'attacher aux pieds pareils au lotus du Seigneur, qu'on glorifie pour ses exploits hors du commun. Ce n'est qu'en devenant conscient de Krishna et en trouvant ainsi refuge aux pieds pareils au lotus du Seigneur qu'on peut s'affranchir de la contamination matérielle. Teneur et portée. Devenir conscient de Krishna entraîne anahata apagama, la disparition de tous les anahatas, ces conditions misérables que nous avons inutilement acceptées. Le corps matériel est au fondement même de ces maux qui nous sont imposés. Toute la civilisation védique est destinée à affranchir l'être de ces souffrances superflues. Mais les personnes enchaînées par les lois de la nature ne connaissent pas le but de l'existence. Comme le dit le verset précédent, Isha Tantriyam Urudamni Badaha, elles sont conditionnées par les trois puissants modes d'influence de la nature matérielle. L'éducation qui maintient l'âme conditionnée prisonnière vie après vie est une éducation matérialiste. Srila Bhaktivinoda Thakur a expliqué que cette éducation matérialiste augmente l'influence de Maya. Ce genre d'éducation amène l'âme conditionnée à s'attacher de plus en plus à l'existence matérielle et à s'éloigner toujours davantage de la libération où disparaissent les souffrances indésirables de ce monde. On peut se demander pourquoi les personnes bénéficiant d'une instruction poussée n'adoptent pas la conscience de Krishna. Le présent verset nous en donne la raison. À moins de chercher refuge auprès d'un maître spirituel authentique et pleinement conscient de Krishna, personne n'a la moindre chance de comprendre qui est Krishna. Les éducateurs, les érudits et les grands dirigeants politiques, vénérés par des millions de gens, ne peuvent saisir le but de l'existence et opter pour la conscience de Krishna, car ils n'ont accepté ni un maître spirituel authentique, ni les Védas. C'est pourquoi la Mundaka Upanishad 3.2.3 enseigne Nayam Atma Pravachanema Nena Labio Na Media Na Buna Sri Tena. Aucun homme ne peut réaliser son identité spirituelle par le simple fait d'avoir une instruction générale, de faire de savantes dissertations, prava chanena labia, ou d'être un homme de science intelligent faisant de nombreuses et étonnantes découvertes. Nul ne peut comprendre Krishna s'il ne reçoit pas la grâce du Seigneur suprême. Seule la personne qui s'est abandonnée à un pur dévot de Krishna et à accepter sur elle-même la poussière de ses pieds pareils au lotus, peut connaître Krishna tel qu'il est. On doit d'abord comprendre comment échapper à l'emprise de Maya, et le seul moyen pour cela est de devenir conscient de Krishna. Or, pour le devenir très facilement, il faut s'en remettre à une âme réalisée, un Mahat ou Mahatma, qui ne s'intéresse qu'à servir le Seigneur suprême, comme l'enseigne le Seigneur dans la Bhagavad Gita 9.13. Mahatmanas tu mam parta devim prakritim ashrita bhajani bhajanti ananya manasho gyatva bhutadim avyadyam. Ceux qui ignorent l'égarement au fils de Pita, les Mahatma, sont sous la protection de la nature divine. Ne sachant Dieu la personne suprême, originelle et intarissable, ils s'absorbent dans le service de dévotion. En conséquence, pour mettre fin aux souffrances indésirables de l'existence, il faut devenir un bhakta. Yasti bhaktir bhagavati akinchana sarvei guni guneis tatra samsate surah. Chez celui qui, plein de dévotion, possède une foi indéfectible en Krishna, se manifestent automatiquement toutes les qualités de Krishna et des devas. Srimad Bhagavatam 5.18.12. Yajya deva para bhaktir yata deve tata guru tashyate katita i arta prakashante mahat mana manah. Ce n'est qu'aux grandes âmes douées d'une foi sans réserve en Dieu et en le maître spirituel que le sens et la portée du savoir védique se révèlent automatiquement et dans toute la plénitude. Svet 6.23. Yam evaishya vriniute tena labias tas yeshya atma vivriniute tanum svam. Le Seigneur n'est accessible qu'à celui à qui Le Seigneur n'est accessible qu'à celui à qui il choisit lui-même de se livrer. À celui-là, il montre sa forme personnelle. Mon 3.2.3. Tels sont les préceptes védiques. On doit chercher refuge auprès d'un maître spirituel réalisé et non pas d'un simple érudit ou d'un politicien, quel que soit leur niveau d'instruction matérielle. Il faut chercher refuge auprès d'un Nishkinshana, d'un être absorbé dans la pratique du service de dévotion et exempt de toute souillure matérielle. Telle est la voie qui permet de retourner à Dieu en sa demeure originelle. Il est primordial de chercher refuge auprès d'un Nishkinshana, d'un être absorbé dans la pratique du service de dévotion et exempt de toute souillure matérielle. Ce n'est que grâce à l'association d'un être entièrement pur, exempt de toute souillure matérielle, que l'on peut devenir pur à son tour.
Ouais, merci beaucoup. Est-ce que des questions? Oui, merci beaucoup. Est-ce que des questions, des commentaires? Alors, on a lu précédemment dans cette lecture une certaine définition. Pardon?
Je veux juste vous interrompre. Peux-tu vous interrompre juste?
Oui.
Pas tout de suite, là, mais si vous vouliez en parler, là, c'est quand tu parles des anarthas à Pagama, la dispersion de tous les anarthas, ces conditions misérables que nous avons inutilement acceptées.
Oui.
Ben, j'aimerais un éclaircissement.
D'accord.
Mais peut-être pas tout de suite, là. Je voulais pas vous interrompre, là.
OK, on va revenir là-dessus.
Oui, c'est ça. Merci.
D'accord. Alors, on a lu le mot Nishkinchananam. On a eu une certaine définition de ça. Voilà. À la page 90, à la ligne 21, Nishkinchananam, traduction dans le mot à mot, de Bhakta qui n'ont aucun lien avec l'univers matériel. Alors là, ça c'est l'objet, ça peut faire l'objet d'une certaine méprise si c'est mal compris. Dans le sens, c'est dit ici qu'ils n'ont aucun lien avec l'univers matériel. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont jamais présents dans l'univers matériel?
Non, ça veut dire qu'ils ne sont pas attachés ni soumis au monde matériel, mais ils sont présents.
Ils sont présents.
Et... Quand on est en communication avec eux, ils sont présents.
D'accord. Et à quoi pourrait-on les comparer? On a déjà lu ça dans des cours antérieurs, et je suis sûr que vous vous en souvenez pas. Des fois, Prabhupada faisait des commentaires comme ça. Je l'ai expliqué plusieurs fois, mais vous vous en souvenez pas. Mm-hmm. Ou vous lisez pas. Ça, c'est Prabhupada qui disait ça, pas moi. Là.
Mm-hmm.
Alors, dans un cours antérieur, Prabhupada expliquait, donnait la comparaison de la fleur de lotus qui pousse dans l'eau, mais qui n'est jamais mouillée. Alors, pourquoi on dit, par exemple, pur dévot, les pieds pareils au lotus d'un pur dévot? Il n'est pas contaminé par les gunas de la nature matérielle. Et là, ici, on dit Nishkinchananam de Bhakta qui n'ont aucun lien avec l'univers matériel. Alors, on pose la question bête. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont pas dans le monde matériel? Parce que si t'es pas dans le monde matériel, c'est sûr que t'as pas de lien. Parce que t'es pas là. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre?
Non. Mais le corps est ici, mais leur mental ne le voit pas comme la dimension matérielle. Ils voient tout en Krishna. Alors, pour eux, c'est partout.
Est-ce qu'ils voient justement le monde matériel comme une énergie de Krishna qui doit être utilisée pour Krishna? Et si c'est pour être utilisé pour Krishna, ça veut dire utilisé à 100% pour Krishna. C'est dans ce sens-là qui n'ont pas de lien avec l'univers matériel, parce que pour eux autres, un être vivant n'a pas d'affaire à utiliser l'énergie matérielle pour elle-même. Ça, c'est bon pour les âmes conditionnées, c'est ce qu'elles font depuis la création des âmes conditionnées. Mais pour quelqu'un qui, justement, est arrivé au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est arrivé au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe?
Il vit dans ce monde sans lui appartenir.
Exactement. Très, très bien. Alors, il est dans le monde matériel, mais il n'est pas non plus dans le monde matériel parce qu'il l'utilise au service de Krishna. Il le voit en relation avec Krishna. Alors, ça, c'est Nishkinchana. Et dans une teneur portée du Srimad Bhagavatam, Prabhupada explique le terme Nishkinchana, que ça veut dire celui qui n'a aucune possession matérielle. Nishkinchana. Ou Akinchana. Akinchana aussi. Akinchana veut dire qu'il n'a aucune possession matérielle. Il s'approprie rien. Pourquoi? Parce que, comme on dit dans les Ishopanishad, Ishavasyam Idam Sarva, mantra 1, Ishopanishad. Rien ne nous appartient, tout appartient à Dieu, la personne suprême. Alors, où est la question de s'attacher à posséder quelque chose? Pour un dévot, tout ça, c'est l'illusion.
Mm-hmm.
L'illusion de croire qu'il y a quelque chose qui nous appartient. Ce corps même ne nous appartient pas.
C'est ce que j'allais dire.
Il appartient à la nature matérielle.
Exact.
On est venu dans le monde matériel dans un esprit de jouir indépendamment de Dieu. Dieu nous a fait cadeau que tu veux jouer indépendamment de moi. Voici un corps matériel. Vas-y pour. Puis empêtre-toi. Moi, je suis pas responsable des conséquences qui vont t'arriver. Ça, c'est à toi. C'est ta responsabilité. Mm-hmm. Je n'ai pas responsable du karma qu'on encourt. Et sinon, lui, il dit, abandonnez-vous à moi, moi je vous protège de toute réaction d'activité pécheresse. Ça, c'est Krishna. Mais il n'est pas responsable de notre karma. C'est nous-mêmes qui en sommes responsables. Alors, voilà, on va arrêter. Oui?
En fait, oui? Ça fait le lien. Ce que tu viens de dire là, c'est exactement pour moi, ça fait le lien avec la question qu'a posée Lynn tout à l'heure.
Oui, justement, je m'en vais là.
Ah, oh, pardon.
Alors.
Ça m'a tilté, en fait, tu vois.
C'est correct, pas de trouble. Alors, parce qu'il ne reste pas grand temps. Alors, Lynn voulait avoir des éclaircissements. Voyons voir. Devenir conscient de Krishna entraîne Anartha Apagamaha, qui veut dire la disparition de tous les anarthas, ces conditions misérables que nous avons inutilement acceptées. Bon. Les anarthas veut dire aussi, anartha veut dire mauvaise habitude. Ça veut dire que c'est des choses que l'on fait, mais qui servent pas notre véritable intérêt spirituel, qui est d'être conscient de Krishna. Ça, c'est anartha. Alors, anartha apagama veut dire la disparition de tous les anarthas, et aussi, le mot anartha, c'est une des conséquences d'avoir pris, pas des conséquences, mais je veux dire des prochaines étapes. Dans la vie spirituelle, c'est dit ado shraddha, tato nartha nivritisyat. C'est-à-dire, au début, ça prend la foi. Ensuite, accepter un maître spirituel. Ensuite, être initié par un maître spirituel. Et anartha nivriti veut dire la disparition de toutes les mauvaises habitudes, de tous ces anarthas-là. Alors, les anarthas veut dire les choses qu'on faisait avant, mais qu'on est obligé de considérer, de laisser de côté, parce que, justement, on veut pratiquer, on veut avancer dans la conscience de Krishna. Est-ce que ça répond à la question, Lynn?
Oui, merci.
OK. Alors, ça, c'est le devoir d'un disciple. Et comme Prabhupada écrit, ça, j'ai lu ça tout dernièrement, dans une lettre à un dévot quelconque ou ou un morning walk, quelque chose comme ça. Prabhupada écrit, ne m'obligez pas à revenir pour venir vous chercher. Alors, il faut se débarrasser justement de tout ce qui est défavorable à la conscience de Krishna pour ne pas obliger les maîtres spirituels à venir nous chercher dans une vie ultérieure. Mais c'est des choses qui arrivent. On a l'exemple de qui donc? On a lu l'exemple. Il y avait la prostituée Chintamani, qui était le maître spirituel. C'est ça. Bilva Mangala Thakur. J'en ai parlé il y a quelques deux, trois, quatre cours de ça. On appelle aussi Sureshvar. Mais aussi, c'est Bilva Mangala Thakur. Alors, il aimait les femmes. Son maître spirituel a parlé à travers la prostituée, lui disant, si tu avais autant d'attraction pour les femmes, pour Krishna, plutôt, que tu en as pour les femmes, combien ta vie serait merveilleuse. Et ça, c'était suffisant pour enclencher chez lui de revenir à la conscience de Krishna, auquel il était rendu dans sa vie antérieure. Et il n'était pas un dévot ordinaire, là, parce que lui avait atteint l'étape de bhava. Bhava veut dire l'extase. C'est juste l'étape qui précède le pur amour pour Krishna qu'on appelle prema. Alors là, c'est sûr qu'il a plié bagage. Bonsoir, Madame Chintamani, puis là, s'est engagé pleinement dans la conscience de Krishna. Alors, le progrès spirituel, ça se fait étape par étape. C'est comme plus ou moins la marche dans l'allégresse d'un escargot qui s'en va à la destination suprême. Alors, notre petit escargot est bien collé au sol, puis ça semble qu'il n'est jamais décollé, qu'il ne va jamais décoller de là. Puis il avance tranquillement, pas vite. C'est même, il donne un exemple en langage populaire. Ils appellent le service de la poste, ils appellent ça snail service, le service escargot. Ou le service par avion, qui est un service express comparé au service par escargot, qui est la poste ordinaire, qui prend 3-4 jours pour arriver en quelque part, si c'est pas plus. Puis si elle ne se perd pas en chemin, en plus. Alors, il semble que notre petit escargot, disons, si là où j'habite, sur notre propriété, il y en a beaucoup. J'en vois en été, j'en vois tous les jours, je sais pas pourquoi. Mais Dieu sait combien il y en a, puis des fois, on écrase sans vouloir parce qu'ils sont dans le chemin. Mais c'est très lent. Mais c'est comme ça. Alors, le progrès spirituel, c'est lent. Et pourquoi? Parce que ça demande une profondeur d'appréciation. Et ça demande la grâce de Krishna pour progresser spirituellement parlant. Si Krishna nous bénit, nous donne l'intelligence pour venir jusqu'à lui, ça veut dire, mon cher dévot qui progresse lentement, voici aujourd'hui je te fais un cadeau. Voici telle réalisation que tu peux mettre à profit. Je te la donne parce que c'est une bénédiction de ma part. Et puis, je suis content parce qu'il semble que tu es rendu là. Tu es capable de comprendre une étape de plus. Et puis, finalement, ça revient à peu près à ça. Anartha Nivriti ou Anartha Apagama. Laisser tomber les choses inutiles. Une des choses inutiles, c'est par exemple le prajalpa, les conversations oisives, parler de choses qui n'ont pas rapport avec Krishna. Alors, un dévot peut y penser deux fois. Ah, ok, au lieu de dire des niaiseries, parlons de Krishna. ainsi de suite. Trois petits points. Alors, ça, c'est Anartha Apagama. Alors, c'est ça, c'est le cours déjà fini. Alors, merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de lectures et puis c'est tous les versets cités et comme à la page 91, toutes les citations, c'est des versets clés, ça. C'est des versets qui reviennent souvent dans les teneurs portées de Srila Prabhupada. Et si on est capable de les mémoriser, ça peut nous faire beaucoup de bien. Et la vérité est là. Alors, comme c'est dit, là, en tout cas, c'est ça, à la page 91. Ce n'est qu'aux grandes âmes, le dernier en bas, ce n'est qu'aux grandes âmes douées d'une foi sans réserve en Dieu et en le maître spirituel que le sens et la portée du savoir védique se révèlent automatiquement et dans toute leur plénitude. Ça, c'est la conséquence d'avoir la foi dans le maître spirituel et Krishna, que tout ce qui est à comprendre dans les Védas, ça devient révélé. Et ça, c'est la bénédiction de Krishna. Parce qu'autrement, ça reste caché. Ça reste non révélé. Il y a un paquet de monde qui ont le Bhagavad Gita, mais pour eux autres, c'est un mystère. Pourquoi? À cause de manque de dévotion à Krishna. Alors, ça prend la dévotion à Krishna pour comprendre Krishna. Alors, dans le Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 55, Krishna dit, c'est seulement par le pur service de dévotion qu'on peut me comprendre. Bhaktiamam abhijanati, yavam yashasmi tadvataha. Qu'on peut me comprendre. Tadvatara veut dire en vérité. Et seulement par le service de dévotion. Et absorbé dans un tel service de dévotion en plein, on peut entrer dans le royaume de Dieu. Le chapitre 18, verset 55, Bhagavad Gita. Alors, faut avoir la foi. Et puis, on peut augmenter notre foi par l'association avec d'autres dévots, puis en chantant le Mahamantra. Le Mahamantra, ça c'est appliquer du Old Dutch sur la vaisselle en cuivre ou qui a besoin de Old Dutch ou de brasso. Le brasso pour faire briller le métal. Alors ça, c'est le Mahamantra. Hare Krishna. Alors, questions, commentaires encore? Ça va? D'accord. Ben merci beaucoup de venir au cours. C'est toujours apprécié.